Marché actions américain, faisons-lui passer un scanner pour évaluer son état de santé. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Nous allons revêtir ensemble notre blouse de médecin généraliste, ou voire même non, notre blouse de spécialiste, car nous allons faire passer ensemble au marché actions américain, aux grands indices boursiers américains, un scanner, une IRM, une radio, enfin que sais-je encore, trêve de métaphores. Nous allons chercher à évaluer l'état de santé cardiaque du marché actions américain, alors que s'oppose, pour les mois qui viennent, le scénario d'une reprise du bear market de 2022 sur fond d'une récession qui serait quasi certaine pour certains, ou la poursuite de la tendance haussière en place depuis le mois d'octobre dernier, sur fond d'une récession qui serait évitée et surtout d'une désinflation structurelle qui permettrait à la Fed, à la Réserve fédérale des États-Unis, de pivoter pour la bonne raison, à savoir un retour de l'inflation, autour des 2% d'ailleurs cette semaine, mise à jour de l'inflation aux États-Unis, mardi. Faisons passer ensemble un scanner au marché actions américain en 10 examens médicaux. Examen médical numéro 1, le chartisme de moyen long terme et l'aspect fractal pour le S&P 500. Examen médical numéro 2, la radiologie quantitative des actions de l'indice S&P 500. Examen médical numéro 3, une petite IRM du positionnement des traders institutionnels sur les indices US. Examen médical numéro 4, les troupes suivent-elles les généraux? En gros, small et mid cap versus big cap. Examen médical numéro 5, les anticipations de profit sont-elles toujours perchées alors que s'achève la saison des résultats du premier trimestre? Examen médical numéro 6, la probabilité d'une récession américaine est-elle encore élevée alors que le rapport NFP a été publié vendredi dernier et qu'il montre que le taux de chômage continue de baisser? Examen médical numéro 7, la valorisation est-elle encore attractive? Examen médical numéro 8, la hiérarchie sectorielle, rappelez-vous, qui était à moitié défensive, l'est-elle encore quid du secteur bancaire en bourse? Examen médical numéro 9, état des lieux du sentiment institutionnel. Examen médical numéro 10, inflation et pivot de la Fed, le point immédiat. C'est parti mes amis, nous fonçons à l'hôpital pour faire ce diagnostic médical complet. Le plan s'affiche sous vos yeux, alors le plan, je viens de vous le décrire, les 10 étapes, je vous le laisse quelques instants si vous souhaitez faire pause pour en faire une capture d'écran et nous attaquons sans plus tarder par l'IRM numéro 1, le chartisme et l'aspect fractal de moyen long terme pour les indices américains. Alors nous allons nous concentrer sur le S&P 500. En fait, je commence pour une fois par la partie graphique. Ce sont les graphiques hebdomadaires et mensuels qui permettent de se projeter sur l'état de santé de la tendance de moyen long terme. Le chartisme, le momentum, l'Ishimoku. Et bien sûr, ici, je vais vous proposer un focus sur l'aspect fractal. Alors, voyons de quoi exactement nous allons parler. Vous avez sous les yeux une superbe fiche synthétique, synthèse qui nous vient d'Elliott Wave Club, qui fait la synthèse des différents mouvements en fractal, en vague d'Elliott des marchés. Alors, concrètement, concentrez-vous sur la partie ici qui se trouve en haut à droite. Nous avons eu le gros bull market ici en 5 temps de la période du Covid et depuis, nous sommes donc dans une phase corrective. Tout l'enjeu est de savoir. Est-ce que cette phase corrective en 3 temps ABC a-t-elle été terminée ici en octobre dernier ou avons-nous simplement terminé la vague A en octobre dernier et depuis octobre faire la vague B avant ici une grande phase baissière, lettrée C. Alors, je vais passer directement sur les graphiques pour vous montrer à quoi cela peut ressembler. Je vous laisse ici la petite fiche synthétique si vous voulez faire une capture d'écran. Je vous retrouve ici le triptyque que vous connaissez bien avec donc le contrat futur S&P 500 en haut à gauche en données mensuelles, en bas à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières. Et nous allons donc nous concentrer sur le graphique en données mensuelles. Alors, je vous remonte ici la fiche. Nous avons déjà eu ici le grand bull market qui a suivi le choc boursier de la crise sanitaire. En 5 temps bien identifiés. La vague 5, ça c'est acquis pour tout le monde, tous les analystes qui font de la fractale. La vague 5 s'est terminée en décembre 2021. Alors maintenant, voilà le sujet. Le mouvement correctif en ABC. Pour les plus optimistes d'entre nous, nous aurions fait le mouvement correctif en 3 temps, ici, entre décembre 2021 et octobre 2022. Ici, en trois temps, les traits ABC. Et nous aurions commencé en octobre dernier, après avoir retracé 50% de l'ensemble du bull market de la crise sanitaire, nous aurions commencé un grand nouveau marché haussier, nous aurions fait la vague 1, et là, en 3 temps une vague 2, la vague 2 est toujours en 3 temps, et nous aurions démarré la vague 3 du grand bull market. Mais pour d'autres, ça c'est ceux qui pensent c'est le scénario fondamental de l'absence de récession, c'est le scénario fondamental d'une désinflation structurelle. Mais pour d'autres, eh bien, la vague, nous ne serions ici que dans une grande vague B, alors elle ne serait pas là, mais elle serait ici, et nous serions à l'aube d'une phase, d'une reprise du grand bear market sur fond d'une récession qui, c'est vrai que certains indicateurs avancés semblent indiquer qu'elle est inévitable, mais ce n'est pas le cas, par exemple, des chiffres du marché du travail aux États-Unis. Ça, j'y viens plus tard dans un prochain, dans la suite des examens médicaux. Et donc, au final, le juge de paix, c'est la zone actuelle. Ce sont les 4300 points. On va regarder, c'est ça tout l'intérêt de combiner le chartisme l'Ishimoku, c'est que ça valide des zones de prix. Et lorsque vous regardez, par exemple, l'Ishimoku en données hebdomadaires, vous voyez bien qu'en fait, on bloque sur les 4300 qui sont ici une importante zone de résistance en Ishimoku, la partie haute du nuage, et regardez la lagging span, elle qui tape la ligne chartiste, donc en fait on est vraiment dans la zone ici pivot, si vous voulez, en gros pour résumer, le scénario des bearish, ceux qui pensent qu'il y aura une récession et que nous allons bientôt faire une grande vague C, reste actif tant que la vague B ici retrace là, ce qui serait une A. J'ai mis ici les ratios de retracement de Fibonacci. Allez, leur ultime stop de protection, c'est 4300. Donc cette zone des 4300 points, c'est la zone frontière. Si elle est dépassée, on repart en grand bull market et là, je vous garantis qu'on dépassera les records historiques. Et au contraire, tant qu'on se maintient sous cette zone, c'est pour ça que ça fait 4 semaines qu'on est en dessous. Et donc, on est vraiment au contact de cette zone pivot. Ça résume bien, je trouve, les hypothèses actuellement du marché. Vous allez me dire, soit ça monte, soit ça baisse. Oui, mais en fait, c'est pas ça le sujet. Bien sûr que soit ça monte, soit ça baisse. Ce qui compte, c'est que nous sommes au contact du niveau chartiste qui sert de frontière entre les deux scénarios. D'où les extrêmes tensions techniques des dernières semaines. Et d'ailleurs, on voit bien en données journalières la volatilité dès qu'on teste les 4002. Mais en même temps, voilà, on tient les supports ici à court terme. Donc ça, c'est le premier aspect des choses de l'examen médical numéro 1. Eh bien, alors à l'état de santé, nous sommes vraiment dans un entre-deux ici sur le plan chartiste. Examen médical numéro 2, la radiologie quantitative des actions de l'indice S&P 500. Alors, l'analyse quantitative de l'indice S&P 500, je le fais ici via le critère du pourcentage d'actions de l'indice S&P 500 au-dessus des moyennes mobiles simples à 20, 50 et 200 jours. Le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 jours permet de juger du niveau de surachat et de survente pour la tendance de moyen long terme. Nous, ce que nous allons regarder, c'est le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours pour le moyen long terme et 50 jours pour le court terme. Et en fait, vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'au stade actuel, on est vraiment... Déjà, pour ce qui est du court terme, il y a toujours quelque chose qui est super propre, ça je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, on est toujours dans une phase de reprise, ici vous avez le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile simple à 50 jours, et bien ici regardez, c'était le point haut de fin janvier parce qu'on était sous résistance, il y avait quasiment 80% des actions au-dessus de la MM simple 50 jours, c'était un surachat, mais voilà, là le rebond en place depuis la mi-mars et le point bas du choc boursier de la mini-crise bancaire, c'est lorsque le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 était sur support. On est toujours dans cette phase de reprise. Maintenant, pour ce qui est du moyen long terme, on regarde le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous regardez dans l'histoire tous les points bas de bear market, le point bas de 2002, le point bas de la crise financière de 2008, le point bas de mars 2020 de la crise sanitaire, ou encore même le point bas d'octobre 2022. Alors, octobre 2022, c'est là. Hein, c'était pile ici, c'est donc bien cette phase de reprise qui interroge. Hein, pour certains, c'est soit une grande B avant de faire une grande C baissière, ou au contraire, nous aurions démarré un nouveau bull market, une vague 1, et là, on aurait fait la vague 2, et vous voyez ce que je veux dire. Bon, eh bien, ce qui est intéressant, lorsqu'on applique l'analyse chartiste au pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, eh bien, regardez ce qui s'oppose. On a à la fois ici le double bottom qui a été fait dans les zones de points bas historiques, on voit par rapport au précédent bear market, mais en même temps, vous voyez, regardez la forme chartiste. Certains voient ici une sorte d'épaule, tête-épaule, et donc c'est pour ça que c'est passionnant et que ça confirme, regardez comment ça confirme à quel point actuellement cette zone des 4002-4003 est une zone frontière sur le S&P 500, c'est que là aussi, sur le plan quantitatif, le niveau ici qui sépare ce niveau horizontal, c'est à la fois la ligne de coup du double bottom et c'est la ligne de coup d'une potentielle épaule tête-épaule. Donc vous imaginez vraiment à quel point ici, sur le plan quantitatif, nous avons ici un patient qui peut basculer, qui est dans une phase de stress et là aussi, c'est un diagnostic qui reste incertain et c'est donc pourquoi il faut poursuivre cet examen médical en faisant un IRM cette fois-ci, du diagnostic un IRM du positionnement, je m'en mêle, hein, les pinceaux dans ces métaphores, je vais arrêter hein, tout ça, du positionnement des traders institutionnels sur les indices US au CME. Alors, vous savez que pour ça, donc, j'utilise les données du rapport Commitment of Traders. Les données sont rendues publiques chaque vendredi soir dans le cadre de la publication du rapport Commitment of Traders de la CFTC, le régulateur américain des contrats futurs. Les catégories Asset Manager et Leverage Funds représentent les gérants et traders institutionnels. Et donc, il faut s'intéresser au positionnement des mains fortes sur les indices boursiers S&P 500 pour les big cap, Russell 2000 pour les small et mid cap. Et bien, actuellement, ce que j'ai noté, c'est une très forte divergence entre le positionnement des Asset Managers et des Hedge Funds. Alors, globalement, ce que je dois vous rappeler, c'est que les Asset Managers sont ceux qui représentent le plus de volume. Mais regardons ça en détail. Donc, je suis ici sur le site du CME. J'ai donc sélectionné ici Equity Indexes S&P 500. S&P 500 avec 2 ans d'historique. Vous savez comment ça marche. Hein. J'avais fait un tuto dans un Fast and Forex sur le rapport Commitment of Traders. Les positions longues, l'histogramme bleu. Les positions short, l'histogramme orange. La position nette, la différence entre les deux, la ligne jaune. Elle est toujours haussière. Et chez les asset managers, il y a plus de positions longues que de positions à l'achat. Mais chez les hedge funds, c'est le contraire. Chez les hedge funds, il y a de plus en plus de positions à la vente. Et ça montre à quel point, regardez les amis, ça montre à quel point nous en sommes ici au 3e examen médical. Ça montre à quel point nous sommes dans une zone de tension à 4002-4003. Parce que là, on a vu que c'est une zone de tension chartiste, c'est une zone de tension quantitative. Et là, au niveau du positionnement des institutionnels, vous avez les asset managers qui ont tendance à croire qu'il n'y aura pas de récession et qu'on dépassera la résistance. Mais les hedge funds, eux, shortent massivement. Et là aussi, c'est un entre-deux, car on peut vraiment avoir une confiance dans un mouvement de marché lorsque asset manager et hedge fund avancent ensemble. Et là, ce n'est pas le cas. Alors maintenant, on va élargir ça au small et mid cap. Je vais donc changer d'indice et je vais aller nous chercher le Russell 2000. Alors, sur les hedge funds, il y a toujours plus de positions short que de positions longues, mais la position nette remonte vers zéro. Et chez les asset managers, il y a plus de positions short que de positions longues et la position net baisse. Donc, clairement, les institutionnels doutent de la capacité des small et des big cap à se reprendre parce que peut-être que la majorité d'entre eux envisagent une récession. Et donc, c'est pourquoi là, on est encore obligé d'aller chercher un autre chirurgien et de voir ce qu'il peut faire plus en profondeur. Alors, quatrième diagnostic, quatrième étape, les troupes suivent-elles les généraux? Alors, les troupes suivent-elles les généraux? De quoi est-ce que je parle? Vous savez, pour avoir vraiment confiance dans un marché haussier ou baissier structurel, il faut que les small et les mid accompagnent le mouvement des big cap. Depuis octobre dernier, ce sont les big cap qui se reprennent. Je veux dire, vous enlevez les GAFAM, vous enlevez Amazon, vous enlevez des grosses capitalisations boursières, les indices sont tout en bas. Je vais vous montrer, bah justement, c'est la partie numéro 4. Je vais vous montrer l'indice Russell 2000, les 2000 plus importants de capitalisation boursière. Je vais vous montrer l'indice boursier des micro-cap américaines. C'est tout en bas, il n'y a pas eu de rebond depuis octobre. Il n'y a que le SP500 et le Nasdaq qui ont rebondi. Donc celle-là, ça montre à quel point il y a une incertitude macroéconomique parce que qui est beaucoup plus sensible? Les big cap, elles ont quoi encaisser? Les small et big cap, les petites entreprises, l'évolution des conditions de financement, la hausse des taux d'intérêt, là, les difficultés bancaires, vous savez, la crise des banques régionales américaines, c'est une hécatombe. L'indice sectoriel S&P 500 des US Regional Banks perd 40% depuis le début de l'année. Et donc, il y a une incertitude sur l'environnement des petites et moyennes entreprises. Et là aussi, c'est un diagnostic technique. Malheureusement, on en est au quatrième examen et on voit bien l'incertitude parce qu'il y a des incohérences. Alors, je vais vous montrer ça ici. D'abord, je vous montre ici l'indice des micro-caps américaines. L'indice des micro-caps américaines en données mensuelles. Regardez. Il n'y a pas eu de rebond depuis octobre. On est toujours en bear market depuis quasiment l'été 2021. Et là, c'est chaud d'ailleurs en Ichimoku sur l'indice des micro-caps. Si je passe maintenant sur le Russell 2000, lui, il est au bord du gouffre technique. Et je vous ai montré que le positionnement institutionnel était plutôt baissier. Je veux dire, si le Russell 2000 casse cette zone, on part en crack. Et le S&P 500 échouera définitivement sous la résistance des 4002-4003. Mais en même temps, pour certains, c'est la zone support. Donc, il y a certains qui payent. Enfin, voilà, c'est pour vous montrer que tous ces marchés actuellement sont sur des zones chartistes importantes et que là, pour le moment, les troupes ne suivent pas les généraux. Et que pour avoir confiance dans la reprise haussière depuis octobre dernier, il faudra impérativement que ces indices de small et mid cap rebondissent sur les supports. Examen numéro 5, les profits prospectifs sont-ils encore parchés après les résultats du T1? Alors ça, j'ai pu vous en parler un certain nombre de reprises. Déjà, on fait un bilan des résultats du premier trimestre. C'est quasiment fini. Alors, overall, bilan des résultats financiers du premier trimestre 2023, moins 3,7% pour les bénéfices des entreprises américaines, mais 74% des entreprises américaines ont battu le consensus, et surtout, le premier trimestre est considéré comme étant en fait un trimestre de creux passager. Là, vous allez voir, c'est complètement incroyable, et c'est en opposition totale avec ce que nous disent les indicateurs macroéconomiques avancés, enfin pas tous, c'est pour montrer à quel point, quel que soit le domaine, là, que ce soit la partie technique ou fondamentale, nous sommes partout dans un entre-deux avec des indicateurs qui donnent des messages complètement paradoxaux. C'est à s'arracher les cheveux, c'est à devenir fou, mais en même temps, c'est d'un intérêt. Moi, ça me passionne. Regardez ici les bénéfices anticipés pour les entreprises du S&P 500. Là, donc, il y a eu un creux dans le premier trimestre. Ok, ben, je viens de vous le montrer. Mais regardez l'optimisme du marché. Ils anticipent un énorme rebond. En gros, les analystes financiers sont hyper optimistes. Ils pensent qu'il n'y aura pas de récession. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde les chiffres du marché du travail américain, ça ne sent pas la récession. Donc, actuellement, d'un point de vue de ces anticipations de bénéfices, il y a un optimisme exacerbé, mais finalement, je me demande si finalement, historiquement, les analystes financiers ne sont pas tout le temps optimistes et qu'ils sont toujours en retard. Bon, écoutez, on verra bien. Maintenant, on est encore obligé, du coup, de pousser, d'aller plus loin, d'aller vraiment voir au fond de ce corps du marché action américain. La probabilité d'une récession US est-elle encore élevée après le dernier rapport NFP ? Alors là, c'est un sujet que je traite souvent ici avec vous, la probabilité d'une récession aux États-Unis. J'utilise tous ces indicateurs-là. Et ce que je vous remontre ici, parce que j'ai tout actualisé, c'est la notation de 1 à 10. Lorsque c'est 10, c'est probabilité de récession quasi certaine. Lorsque c'est 0, c'est probabilité de récession quasi nulle. Quasiment tous les indicateurs macroéconomiques avancés indiquent qu'on va aller en récession. L'inversion de la courbe des taux, les indices PMI, ça c'est beaucoup de hard data, mais le juge de paix, la hard data par excellence, qui elle nous dit qu'il n'y a pas de récession, c'est le marché du travail américain. Et justement, eh bien, le marché du travail américain, il y a eu donc vendredi dernier la mise à jour du NFP aux États-Unis, le rapport NFP, le rapport sur le marché du travail américain. Regardez, le taux de chômage continue de baisser et c'est ça qui rend en fait complètement fou les analystes économiques, c'est que vous regardez un certain nombre d'indicateurs avancés. Vous regardez les... Mais écoutez, je vous remonte ça tout de suite, regardez. Par exemple, les job cuts. La pente haussière que prennent les destructions d'emplois aux États-Unis. La moitié des banques régionales américaines qui est en difficulté. Et pourtant, le taux de chômage américain est encore tout en bas. Me direz-vous, peut-être que ce rapport NFP est en retard. Mais effectivement, lorsqu'on regarde les indicateurs économiques de l'emploi avancé, je parle de l'emploi avancé, le nombre d'embauches, les destructions d'emplois, la courbe du nombre d'embauches vient de croiser en tendance baissière à la baisse, la courbe des job cuts à la hausse. On se dit, comment ce taux de chômage peut se maintenir tout en bas ? Est-ce provisoire ? Est-ce que le rapport officiel est en retard ? Ça, c'est pourquoi chaque mois ce rapport est actualisé. Mais c'est vrai que là, par rapport au débat sur la probabilité d'une récession, tous les indicateurs avancés nous disent que c'est certain, on y va. Reprenez mes derniers Top Gun, je vous ai notamment montré le leading indicateur du Conference Board, mais je vous en ai montré un certain nombre d'autres. Et à chaque fois, le marché du travail dit non. Bon, donc là, c'est ça aussi, c'est même sur ce plan vraiment global macroéconomique, il y a des paradoxes aussi puissants que ce qu'on a vu pour la partie technique des indices boursiers. Donc c'est pour ça, là, lorsque le spécialiste va rendre son diagnostic final après ses 10 examens, on voit déjà que ça va être un entre-deux et qu'il va falloir que nous ayons davantage de data pour pouvoir approfondir ça lors des prochaines semaines. Je voulais aussi vous montrer ici un indicateur de la Réserve fédérale de Saint-Louis qui probabilise une récession, le Real-Time Sam Real Recession Indicator, qui est en fait la moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois. Et ce qu'il est dit, c'est lorsque la moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois augmente de 0,5% par rapport à son previous 12 months low, eh bien nous serions en récession. Là, on est à zéro. Donc, bah là, pour l'instant, non, alors que les job cuts, ça a vraiment une sale apparence. Donc, il faut qu'on poursuive l'examen et qu'on en arrive à la 7e étape. La valorisation, c'est pour ça qu'il faut faire 13 ans d'études pour être spécialiste, parce qu'il y en a des étapes. La valorisation est-elle encore attractive selon le price earning de Shiller et le PE forward? Alors ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Actuellement, les valorisations peuvent sembler attractives, en fait, globalement partout. Que ce soit le PE forward, le price earning prospectif, la valeur actuellement du marché action par rapport aux bénéfices prospectifs, ou que ce soit le PE de Schiller, la valeur actuelle du marché action par rapport aux bénéfices des 10 années passées, retraités de l'inflation. Partout, nous sommes dans les moyennes. Mais ce qui est grave, c'est que par exemple, avec le PE forward, nous sommes dans la moyenne, mais c'est parce que les bénéfices prospectifs sont perchés. Donc forcément, lorsqu'on compare actuellement le prix des actions aux bénéfices attendus, bah oui, c'est dans la moyenne. En plus, ce n'est que dans la moyenne, ce n'est pas tout en bas. Mais imaginez qu'on se trompe sur les bénéfices prospectifs. Mais alors là, le marché actions est hyper cher. Donc c'est ça qui est incroyable. Donc je vais vous remontrer quand même qu'au final, on est overall, on n'est pas, le marché n'est pas bon marché, il est partout dans la moyenne. Je vous ai remis ici quelques données pour le SMI, le CAC, le S&P 500. Là, vous avez donc, alors là, vous avez le PE forward du S&P 500. Voilà, on voyait que la moyenne de 5 ans est en verte, la moyenne de 10 ans est en bleu. On est vraiment entre les deux moyennes. Je vous ai tout récapitulé ensuite ici. Alors là, vous avez pareil hein, sur Guru Focus, le PE forward du S&P 500. On voit qu'on, alors on est bas, mais on est globalement dans les moyennes historiques autour du 18. Bon, c'est sûr que oui, alors on est là. Et alors j'ai tout rassemblé sur un graphique TradingView. Vous avez ici, donc actuellement, le PE, alors le PE ratio du S&P 500 est de 24, mais le PE de 24, c'est celui des 12 derniers mois. Le PE forward est à 18, le PE de Schiller est à 28, le price to book est à 4. Le PE de Schiller est à 28, la moyenne depuis 20 ans, c'est 26. Donc, mais oui, c'est sûr que lorsque le bear market a commencé en 2021, on était à 40. Donc, c'était là, effectivement, mais c'est quand même au-dessus de la moyenne. Hein, vous voyez, donc c'est pas non plus. Nous sommes là aussi, bah, même en termes de valo, on tape au centre. Après 7 examens, nous ne faisons que de taper au centre, ce qui ne nous avance pas. Alors du coup, est-ce que le 8e examen va nous apporter davantage de réponses? La hiérarchie sectorielle est-elle encore à moitié défensive? Là, malheureusement, mes amis, vous allez dire que je le fais exprès. Mais là aussi, je vous avais montré ça il y a 3 semaines, que dans la reprise du marché action depuis octobre dernier, pour avoir vraiment confiance dans un bull market, il faut non seulement que les small et les mid suivent les big cap, mais il faut aussi que les secteurs les plus cycliques soient tout en haut de la hiérarchie et que les secteurs défensifs soient tout en bas. Ça montre vraiment que là, on a une confiance macroéconomique dans la reprise des actions. Eh bien, on a encore un mélange de secteurs cycliques et défensifs. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs cycliques tout en haut, mais il y en a encore tout en bas. Le secteur de la finance, par exemple, est tout en bas. Le secteur de l'énergie chute avec le prix du pétrole qui chute. D'ailleurs, je vais en dire un mot. J'ai fait 2 vidéos spéciales sur le pétrole dans le Fast and Forex. Et là, c'est toujours pareil. Alors, j'utilise pour ça les 11 super secteurs du S&P 500 ou les 20 super secteurs des actions de l'indice Eurostock 500, soit 600 pour l'Europe. Bon. On va regarder ça tout de suite sur TradingView. Voilà la hiérarchie sectorielle. Alors, vous allez ici dans Marché, vous faites Indice et vous avez ici les secteurs du S&P 500. Vous allez ensuite dans l'onglet Performance et là, vous faites comme sur Excel un classement. Eh bien, alors, oui, on a la tech, on a la communication, très bien. Très bien, ça, c'est cyclique. Mais juste après, Consumer Staples et Healthcare Utilities. Mais surtout, on a Staples. Staples, c'est le secteur défensif par excellence. Donc, je dirais que c'est un peu moins défensif qu'avant. Mais on a quand même les produits de base qui sont en quatrième position. Et surtout, le bull market, on ne peut pas faire confiance à la reprise tant que l'énergie et les valeurs financières sont tout en bas. Et donc, notamment le secteur bancaire. Donc là, d'ailleurs, on va regarder ensemble. Alors, sur TradingView, vous avez tout. Vous avez ici les 11 indices. On va prendre ici l'indice sectoriel des valeurs financières du S&P 500. Bon, bah, vous voyez que, alors, on est sur ce support qui était d'ailleurs le niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire. Mais ça, c'est vraiment le bord du gouffre. Mais c'est vrai qu'on tient le support, mais on rebondit pas. En fait, voilà. Pour vraiment, imaginons pour avoir ce scénario le scénario le plus bullish. On va reprendre ce que je vous ai proposé en tout début de vidéo ici avec les différents scénarios en fractal qui s'opposent. Pour avoir ce scénario vert le plus bullish d'une grande vague 3, il est impératif que tous les secteurs cycliques contribuent. Il est impératif que tous les secteurs cycliques, et en particulier que cette crise du secteur bancaire se termine. Et là, je vous montre encore, donc en gros, voilà, ça il ne faut absolument pas casser ce niveau pour continuer de croire à la hausse, car si on casse ça, définitivement, le S&P 500 va échouer sous la résistance des 4002-4003 et repartir en bear market. Et vous savez qu'il y a aussi l'indice sectoriel des regional banks, et c'est encore, il est pire, lui, il perd 40% depuis le début de l'année. Bon, voilà. Donc ça, ce qui est un peu compliqué, c'est donc qu'on a une hiérarchie sectorielle qui est encore plus ou moins encore aussi dans un entre-deux. Donc là, on arrive au 9e examen, c'est toujours balle au centre. État des lieux du sentiment des gérants institutionnels Alors, vous savez que statistiquement, les gérants institutionnels sont gagnants, au contraire des traders particuliers. Alors, voici quelques outils pour juger le sentiment des traders institutionnels. C'est vrai qu'en général, hein, le sentiment des traders institutionnels, les mains fortes s'opposent au sentiment des traders particuliers, dites les mains faibles. Et donc, du côté des... Moi, je vous propose quelques outils. On va regarder ensemble la term structure du VIX, qui est ici sous vos yeux, le volume des options put et le put-call ratio. Pour voir qu'il y a encore un comportement plus ou moins défensif. Alors là, vous avez la term structure du VIX, le prix des contrats futurs VIX à travers le temps. Donc la courbe là est en contango, ce qui est assez classique, mais c'est pas un contango très marqué. Donc vous voyez que ça culmine à 24, 25. Et si vous allez donc regarder le VIX, l'état actuel du VIX, on va se mettre ici le graphique moyen terme du VIX. En gros, le marché semble anticiper que la vol reste, ne dépasse pas cette zone. Donc, c'est un régime de vol anticipé qui n'est pas celui d'une grande vague baissière. Donc voilà, mais là, c'est pas non plus en back correlation. En même temps, c'est quasiment impossible ou très très rare sur le VIX. Bon, ça c'est une première chose. Alors maintenant, on va regarder d'autres indicateurs, notamment le volume des puts. Qui est toujours donc, alors on est loin des récents tops, mais on a toujours une tendance haussière du volume des puts. On n'est pas en zone de complaisance, donc là c'est dans l'entre-deux. On peut regarder maintenant le put-call ratio. Je fais ici le ratio au numérateur, le volume des puts, au dénominateur, le volume des calls. Et là par contre, on a une tendance baissière, donc on sent qu'on rentre de plus en plus dans une phase de complaisance en termes de ratio. C'est plutôt un indicateur qui semble dire que là, la majorité des institutionnels semblent anticiper qu'on finisse par dépasser les 4002, 4003. Bon, là, c'est pour ça, du coup, que... Bon, c'est là aussi, on n'a pas... c'est pas évident. Après, chers amis, vous avez comme moi enfilé votre blouse de spécialiste, hein, parce que, comme je ne suis pas médecin, alors... Cette métaphore, c'est parce que j'ai une famille de médecins. Papa, maman, bonjour si vous regardez cette vidéo. Mais sur la retraite. Et papa étant généraliste et maman radiologue, je me suis dit, c'était rigolo. Mais voilà, peut-être, vous dites-moi dans les commentaires l'interprétation que vous faites de tous ces baromètres que je vous montre ici sur le marché action US. Et on va terminer donc par le 10e examen. Et après, on va pouvoir rentrer chez soi. C'est une semaine de mise à jour de l'inflation aux États-Unis. Vous savez, pour vraiment que le marché action américain dépasse la résistance des 4002-4003, il faut que les taux d'intérêt du marché baissent. Là, je vous remontre à quel point vous avez un graphique qui superpose les bougies japonaises en données hebdomadaires du S&P 500. Vous comprenez bien, le début du bear market, l'énorme épaule tête épaule, c'était l'envolée haussière des taux d'intérêt. Et vous voyez que les taux d'intérêt reculent désormais, ont tendance à reculer. Pour que les taux d'intérêt du marché continuent de reculer, il est impératif que la Fed pivote. Pour que la Fed pivote, alors d'ailleurs, au passage, les anticipations du marché maintenant, d'après les anticipations du marché, la Fed pourrait pivoter l'automne prochain, c'est-à-dire que, a priori, le taux terminal a été atteint la semaine dernière à 5,25 et que la Fed devrait démarrer une tendance baissière de cet taux d'intérêt. Mais c'est de la poudre aux yeux. Je veux dire, alors, pour que ça se réalise, en fait, il faut que la Fed, pour que ce soit haussier, il faut que la Fed pivote pour la bonne raison. Si la Fed pivote parce qu'il y a une récession, ça ne fera pas monter le marché action parce que les bénéfices prospectifs vont baisser. Vous avez compris. Mais si la Fed pivote parce que l'inflation est vaincue, c'est bien. Alors, ça tombe bien justement parce que cette semaine, c'est la mise à jour de l'inflation aux États-Unis. Je vous remonte ici Trueflation qui est au plus bas. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, attention, parce que l'inflation actuellement, le CPI est à 5. D'après l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, l'inflation d'avril va remonter à 5,20. Elle est publiée ce mardi. Mais c'est parce qu'il y a eu entre-temps un rebond du prix du pétrole, qui d'ailleurs s'est complètement dégonflé. Et là, et les gaps aussi ont été comblés. Ça allait dans le sens de mon scénario. Je vous invite à reprendre le Fast and Forex de mercredi dernier pour avoir les détails. Et regardez, les anticipations pour ensuite mai sont à une reprise de la tendance baissière du taux d'inflation. Et donc, overall, lorsqu'on regarde les composantes de Trueflation, eh bien, l'immobilier fait toujours un nouveau plus bas. Les transports, ça semble repartir à la baisse. Utilities, c'est tout en bas. Alimentation, boisson, alimentation, boisson, c'est tout en bas. L'immobilier, c'est tout en bas. L'utility, c'est tout en bas. La santé fait un nouveau plus bas. Donc voilà, hormis les transports qui ont remonté parce que le prix du pétrole a remonté, mais là, le prix du pétrole est revenu tout en bas, on se dit que l'inflation devrait lors des prochains mois continuer de baisser. Mais maintenant, ce qui comptera, c'est bien sûr la probabilité d'une récession. Voilà, chers amis, écoutez, ainsi s'achève le diagnostic médical du marché actions américain. Et au fond, maintenant, je dirais que l'ultime juge de paix, ce sera le marché du travail américain. Et il est vrai que tant que le taux de chômage reste au plus bas, il n'y a pas de récession. Et dans ce cas de figure-là, avec une désinflation qui se poursuivrait, oui, ça peut être aussi. Mais vous savez, le vrai risque, c'est si un jour, un rapport NFP montre une envolée du taux de chômage, ne serait-ce que d'un rebond de quelques points de pourcentage, de 0,3, 0,4 points de pourcentage, là, il va y avoir un vrai stress sur les bénéfices prospectifs, et là, ce sera la fin du rebond du marché action. Voilà, mes amis, j'espère que ce diagnostic vous a plu. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, et à bientôt. Merci, bonne semaine.